France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Arco, c'est le titre du premier long-métrage d'animation d'Hugo. Bienvenue dans un futur en deux temps, entre dystopie et Jardin d'Éden. Le réalisateur sera mon invité à partir de 13h. Mais tout de suite, place à la critique. Au menu aujourd'hui, une exposition et un film. My Name is Orson Welles, c'est à la Cinémathèque française. Et Chronology of Waters, premier long-métrage de l'actrice Kristen Stewart. Vous écoutez les Midis de Culture, ce n'est pas une relation à sens unique, vous savez. Et pour cette actualité du cinéma, je suis bien accompagnée Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large, le samedi à 13h30 sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour. Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theatre, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title. What's the real truth about Charles Foster Kane? I wish you'd come to this theatre when Citizen Kane plays here and decide for yourself.
Et on commence donc, une fois n'est pas coutume, par une exposition avec My Name is Orson Welles. La Cinémathèque française profite du 40e anniversaire de la disparition du cinéaste pour rendre hommage à l'artiste total qu'il était. Un réalisateur bien sûr, homme de radio aussi, dessinateur, oui, sculpteur même, publicitaire, magicien et puis enfant prodige, coqueluche d'Hollywood pour un film, styliste de l'image et aujourd'hui encore source d'inspiration pour une foule de cinéastes. Une rétrospective de ses films est évidemment proposée ainsi qu'une somme de documents, de séquences inachevées qui illustrent la boulimie créative de Welles et aussi bien que ses échecs. On commence par quelques mots d'introduction, Charlotte Garçon.
Oui, je trouve que la mise en espace de cette boulimie dont vous parlez illustre bien le fait qu'il y a un sujet qui unifie tout ça, mais qui est lui-même très diffracté, et diffracté dans des objets, dans des documents, on va en parler.
Antoine Guillot.
Oui, effectivement, l'exposition est à l'image de l'œuvre et de l'homme et du personnage, presque plus que l'homme. Elle est foisonnante, elle est imaginative et elle est inachevée.
Alors Charlotte Garçon, à quoi elle ressemble déjà cette exposition? Vous disiez diffractée à l'image de l'œuvre et du bonhomme.
Alors, je n'ai pas tous les mots pour décrire des scénographies. Bon, elle ne me semble pas très complexe cette scénographie, mais à l'image de l'exposition qui est... quand même très pédagogique, c'est-à-dire que on peut imaginer, je pense que les concepteurs ont pensé aussi aux jeunes gens qui ont entendu parler de Citizen Kane, qui connaissent la silhouette d'Orson Welles, mais qui n'ont pas encore vu ces films. Donc il y a cet aspect pédagogique qui doit être intégré dans l'espace. Et il y a une chose que moi j'ai beaucoup appréciée, qui est, vous savez, que se pose toujours dans les expositions de cinéma, où est-ce qu'on met les morceaux de films, où est-ce qu'on met des petits écrans plus ou moins transparents, plus ou moins, voilà, comment faire pour que les gens entendent les films alors que ça pourrait déranger les visiteurs, etc. Et donc, il y a quelque chose qui structure l'exposition, ce sont plusieurs petites salles de cinéma avec vraiment un grand écran où on peut se plonger dans des montages d'extraits. Donc pour moi, elle est jalonnée comme ça. Après, quasiment, il y a une pièce par film mythique, à savoir Citizen Kane a sa propre pièce, mais la radio a sa pièce, voilà. Donc c'est assez simple, d'une certaine façon, et en même temps, ça, de manière assez cruelle, ça pointe aussi vers ce qui est arrivé, c'est ce dont vous parlez, c'est-à-dire l'idée que le côté maudit, un petit peu l'enfant prodige, va s'effriter d'une certaine façon, s'émietter en plein de projets qui sont très stimulants, mais qui sont tous inachevés. Et donc, est-ce que c'est la lassitude de marcher dans une exposition et de prendre peut-être plus de temps au début qu'à la fin? Mais c'est vrai que moi, dans les dernières salles, j'ai perçu moi-même un côté moins lisible de la scénographie. Mais peut-être que, sachant que cette scénographie est ponctuée aussi par des sortes de vitraux en bois, enfin de tours, comme si on était un petit peu dans une église qui laisse voir la pièce suivante. Est-ce que je me trompe,
Antoine Guillaume?
Oui, alors c'est peut-être moins l'Église, parce que heureusement, c'est pas non plus une exposition qui va vers la vénération, c'est-à-dire qui n'est pas là pour dire regardez quel génie absolu et tout est formidable chez Wells. Je pense que cette scénographie, ces petites ouvertures que vous avez vues, ça veut plus évoquer le palais de Xanadu, la folie que se construit Kane dans Citizen Kane, et qui effectivement fait des percées sans arrêt sur ce qui est arrivé, ce qui va arriver, comme le montage en fait de Citizen Kane, et on reparlera de montage tout à l'heure avec Kristen Stewart. C'est effectivement quelque chose qui veut embrasser toute une vie, c'est vraiment une exposition à l'image de Citizen Kane, mais où malgré tout quelque chose échappe toujours.
Mais quelque chose résiste.
C'est-à-dire, est-ce qu'on trouve le Rosebud d'Orson Welles en voyant cette exposition? Je n'en suis pas sûr. L'homme reste quand même, malgré tout ce qu'il donne de lui, malgré toute cette multitude qu'il dit, hein, il y a des textes, parce qu'il y a des textes aussi qui sont des phrases, des citations d'Orson Welles qui sont affichées, où il dit je suis tellement nombreux, je suis une multitude, comment ça se fait que vous soyez si peu nombreux vous-même? Et c'est vrai que ça nous perd un peu par moments. Je ne suis pas sûr qu'on atteigne vraiment à qui était Orson Welles, et je dirais tant mieux. Parce que si l'exposition visait à nous donner une vérité de ce qu'était Welles, ce serait terriblement réducteur à la fois et décevant. Donc en fait, on entre dans l'exposition avec un double portrait très grand d'un jeune homme de 23 ans au visage poupon et d'un vieillard au nez crochu avec une très grande barbe, et en fait c'est le même homme. C'est ce jeune prodige du théâtre de l'époque qui apparaît grimé dans une pièce de Georges Bernard Shaw. Il a fait la couverture de Time Magazine déjà à 23 ans, avant même d'être de faire Citizen Kane. C'est déjà une star Orson Welles, et c'est parce que c'est une star qu'il va pouvoir faire d'ailleurs Citizen Kane. Sauf que ce qu'on voit là, c'est déjà des postiches. Et la façon d'Orson Welles de se grimer, d'avancer toujours masqué et surtout de se vieillir bien avant l'âge, donne précisément l'histoire de Citizen Kane. C'est-à-dire qu'on a de la naissance à la mort, un mystère qui échappera toujours, et ça fait lien avec la fin de l'exposition qui se termine sur la figure à la fois spectaculaire, bouffonne et mélancolique du Orson Welles vieux, devenu cet homme obèse avec une très grande barbe, son cigare, et toute cette mise en scène de lui-même qu'il va faire, certes pour financer les films, c'est ce qu'il appelle la danse de l'ours, où il va être sans arrêt sur les plateaux télé à faire de la publicité pour une piquette californienne et autres, sauf que on peut se dire que ça fait partie de l'œuvre aussi. C'est le côté presque warholien d'Orson Welles qui va devenir son propre produit, mais aussi sa façon d'investir totalement la pop culture. C'est-à-dire qu'Orson Welles, on saisit mal à quel point, à partir des années 60 et jusqu'à sa mort, c'est devenu une figure médiatique qui est partout, qui vient faire ses numéros de magie qui sont souvent tout à fait époustouflants. Il y a un film de Jacques Rosier pour la télévision française où on le voit faire ça, et c'est magnifique. Tout en faisant les films les plus radicaux qui soient, enfin il faut quand même revoir Vérités et mensonges aujourd'hui, qui est un film qui est encore totalement inépuisable, et qui est une manière aussi, un peu comme Godard avec son premier film, d'échapper à cette image figée qui voudrait qu'on se résume toujours soit à bout de souffle, soit à Citizen Kane. Et dire, maintenant, moi, je progresse sans arrêt. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette exposition, c'est qu'ils sont allés chercher dans les réserves extraordinaires de machines qu'il y a à la Cinémathèque française pour nous montrer à chaque fois avec quoi ça a été fait. C'est-à-dire que Citizen Kane s'est fait avec une énorme caméra sur trépied, et puis après il découvre une caméra portable qui lui permet de changer complètement son cinéma, et on peut rêver de ce qu'Orson Welles aurait fait aujourd'hui avec un smartphone ou un appareil photo qui lui aurait donné la liberté de continuer à explorer son cinéma, parce que ce n'est jamais quelque chose de figé. C'est quelqu'un qui réinvente son cinéma sans cesse à cause de contraintes budgétaires, parce que plus personne ne lui donne d'argent, et que c'est avec ses cachets qu'il finance et qu'il bricole ses films de façon complètement insensé, mais qui en profite pour réinventer le cinéma sans cesse, comme il l'a fait dès Citizen Kane, puisque c'est quelqu'un qui venait du théâtre, de la littérature, de la peinture, de tout ce que vous voulez, mais certainement pas du cinéma. Je pense que c'est quelqu'un qui n'allait pas beaucoup au cinéma, qui ne devait pas en avoir une haute estime, et qui donc s'est retrouvé avec ce jouet génial qui est un studio tout entier à votre disposition, et qui réinvente le cinéma sans se référer à ce qui s'était fait avant, sauf peut-être aux bandes d'actualité, puisque c'est déjà quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi aux médias dès le départ, mais qui va tout remettre sur le tapis, et à chaque fois, tout réinventer.
Charlotte Garçon.
Oui, d'ailleurs, il dit dans un entretien qui est inclus dans le catalogue de l'exposition, on lui demande, mais comment vous avez eu toutes ces idées d'invention technique avec votre chef opérateur? Il dit, mais c'est dû à mon ignorance. C'est parce que je ne savais pas que telle ou telle chose était impossible à faire ou très difficile à faire techniquement. Donc ça, pour les jeunes gens qui sont un peu hésitants, en fait, l'idée, c'est que, oui, il est génial au départ, c'est une sorte d'enfant précoce, il lit à 2 ans, etc. Et en même temps, il dit, c'est mon ignorance qui a fait que j'ai avancé comme ça. Et c'est pas de la fausse modestie. Je pense pas que c'était quelqu'un de particulièrement modeste. Donc c'est quand même intéressant effectivement d'ouvrir l'histoire du cinéma à une altérité, à l'altération, je dirais, de cet auteur-là qui avance en boitant, disons, et en bricolant des choses et en faisant bricoler, mais avec une très grande ambition. Ce qu'on voit bien dans l'exposition aussi, et puisqu'on est à la radio, c'est quand même que tout vient du théâtre ou tout vient de la radio, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le cinéma, évidemment que c'est faux de dire que le cinéma, c'est du théâtre plus de la radio. mais en même temps, dire cela, ça veut dire qu'il a compris, il a saisi tout de suite que le cinéma, l'une des grandes questions du cinéma, en tout cas au XXe siècle, c'est la théâtralité. C'est-à-dire comment le cinéma a mangé le théâtre. Mais il l'a mangé, il ne l'a pas juste filmé ou reproduit. Et donc le fait qu'il y ait beaucoup de documents, de photographies, de ses années de théâtre et aussi de ses années de radio, avec la fameuse émission où il a inquiété tout le monde sur une invasion martienne dans le New Jersey, nous fait réfléchir à la matière, à ce qui compose le cinéma, à savoir le cinéma, bah oui, c'est du son, comme le fait qu'à la radio, on n'est que le son, donc on se projette, et c'est aussi du théâtre. Alors en quoi est-ce du théâtre? D'abord parce qu'au cinéma, l'artifice, le trucage prend un degré de réalisme accru par le travail photographique possible, par le trucage que rend possible. Donc ça, il a vraiment rendu hommage à son maquilleur, qui l'a transformé. Mais aussi peut-être, alors ça n'est pas tout à fait dit et analysé, parce que les séquences d'extraits qui sont proposées aux gens pour montrer le plan séquence, comment Orson Welles travaille sans coupe le début de La Soif du Mal. Pour moi, l'un de ses vraiment plus beaux films, son film de 1957, plus classique, on pourrait dire, en un sens, mais en réalité ouvert sur un plan séquence très très virtuose. Alors Tarantino après pourra s'inspirer de ce genre de plan. Mais en réalité, je me suis dit, en voyant par exemple tout son travail sur la contre-plongée, cet angle de caméra d'en dessous, le fait de voir les gens d'en dessous, alors on se dit, bien sûr, il parle de monuments, il parle de gens qui sont vénérés ou détestés, comme Kane, c'est-à-dire le mania de la presse maléfique dans Citizen Kane. Mais en réalité, je me dis que peut-être un peu plus simplement, la contre-plongée, c'est quand même souvent aussi le point de vue du spectateur de parterre, du parterre au théâtre. Donc en fait, on fait soi-même, et c'est peut-être faux, je dis ça, je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, l'exposition avec ces différentes strates et ces autres arts nous permettent pas seulement de se dire « Ah, ce type était un génie et un touche-à-tout », bon, d'accord, je veux dire, tout le monde peut faire des petites sculptures ou des dessins sur des boîtes de cigares, moi, ça m'a moyennement intéressé, en réalité, cet aspect-là, mais de se dire « Le XXe siècle est vraiment un moment où le cinéma a tout mangé, quoi, a réussi, chez certains et par le prisme de certains cinéastes, à transformer des arts existants en encore un autre art. Et je trouve que quand même l'exposition permet de réaliser ça en acte.
Alors on dit qu'il y a énormément de documents à voir, d'extraits de films, de séquences, alors qui sont pas inédites, mais en tout cas qu'on ne voit pas beaucoup. Antoine Guillot, qu'est-ce que vous retenez dans cette profusion-là ?
Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement les gens qui contestent Wells. Alors on en trouve des traces dans le catalogue et des grosses signatures, puisqu'on a un Borges par exemple qui agonie, Citizen Kane, Sartre aussi qui trouve ça vraiment lamentable. Mais on le retrouve aussi à l'intérieur de l'exposition. Par exemple, il y a deux lettres d'insultes qui sont affichées, celle d'un citoyen et celle d'un juge après la diffusion de La Guerre des Mondes, justement à laquelle Charlotte faisait référence tout à l'heure, vraiment en le traitant d'irresponsable, monstrueux, de criminel. Et je pense qu'il jouera toujours avec cet effet-là. On voit plus loin le livre de Pauline Kael qu'elle avait consacré à...
La fameuse critique, redoutable.
À Citizen Kane, en disant, mais en fait, il n'a rien inventé, tout vient du scénario de Mankiewicz. Non, c'est... comment ça s'appelle ? Oui, c'est Herman, ça, de Herman, le frère. Mankiewicz, la thèse que reprendra David Fincher quand il refera le livre dessus. Donc il y a sans arrêt quand même des gens qui sont là pour contester Wells et pour dire en gros, mais pourquoi vous ne refaites pas Citizen Kane ? Pourquoi vous êtes l'homme qui ne veut jamais finir ses films ? Il y a toute une haine assez étonnante d'Orson Welles. Donc ça déjà, je trouve ça assez beau. Après, il y a quelque chose d'assez ludique aussi dans l'exposition. Je pense que l'exposition en fait réfléchit beaucoup à ce qu'a fait Dominique Paigny, grand prédécesseur de Frédéric Bonneau à la Cinémathèque française, sur comment exposer le cinéma. Donc il y a effectivement, moi j'apprécie beaucoup que ces salles de cinéma dont parlait Charlotte, qui sont vraiment là, d'une part, alors ça s'appelle figure de style, mais pour nous dire que il y a quand même jamais rien de systématique chez Orson Welles. C'est-à-dire on pourrait, certes il y a du plan séquence, mais on ne peut pas réduire le cinéma d'Orson Welles au plan séquence, de même qu'on ne peut pas le réduire à la profondeur de champ, ni au montage rapide, qui est montage rapide, plan séquence, a priori ça s'oppose complètement. Bah, quand il a besoin de faire du plan séquence, qu'il veut montrer qu'il est toujours là et qu'il est toujours costaud au début de La Soif du Mal, c'est presque un plan séquence m'as-tu vu, quoi, qui est, oh, regardez, je vais vous le faire, et beaucoup de cinéastes après voudront le refaire. Je me souviens du début du film de Robert Altman, The Player, passe son temps à dialoguer avec ce plan séquence en disant bon, on va en faire un encore plus long. Donc effectivement, il a réussi à faire 2-3 minutes de plus que celui-là. Je rappelle que ça se faisait à l'époque avec des bobines de film, hein, donc c'était quand même réduit le temps que vous pouvez. Mais si après on doit faire autre chose, on fera autre chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Welles n'est jamais dans son propre dogmatisme. On pourrait penser qu'il est enveloppé par le monstre que lui-même est, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se réinvente sans cesse. Et puis il y a ce fameux moment où il y a la boule à neige. Et alors là, je dirais que c'est la salle à éviter si vous n'avez jamais vu Citizen Kane, même si le qu'est-ce que c'est Crossbud, on va pas le dire ici parce que là peut-être qu'ils ne le savent toujours pas, c'est devenu le
MacGuffin.
Oui, moi c'est presque le spoiler le plus célèbre de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que on fait sans arrêt des gags sur qui va dire ce que c'était. Il y a un extrait à un moment de la série Les Sopranos où elles ont les femmes de gangsters ont regardé ensemble le film et sont super déçues. Elles disent, ah bon, en fait, c'était ça, mais c'est nul. Il y a un gag célèbre des Peanuts où Lucy gâche le film à son petit frère parce qu'elle l'a vu 8 fois et lui le découvre la première fois en disant, ah ben en fait, Rosebud, c'est... Bon, hein, je vous dirai pas ce que c'est. Et ça le rend fou. Et en fait, il y a toute une légende, en fait, Orson Welles, qui dépasse très vite ses films. Il y a cette salle assez marrante sur très diffracté, très monté sur la fin de La Dame de Shanghai, ce fameux plan avec les miroirs, et on se rend compte tout d'un coup à quel point Philippe Lanson dit dans le catalogue que Welles n'a pas d'héritier. Il n'a pas d'héritier direct, sans doute par sa folie, sa démesure, mais ses images ont imprégné toute la rétine de tous les cinéastes du monde et des faiseurs de clips, etc. Et on voit cette scène outrageusement citée, recitée, que ce soit dans un film de Woody Allen, de Bruce Lee, à la télé, dans des clips, et on se rend compte que Welles n'est plus là, mais il est partout encore maintenant.
Je vais m'arrêter là parce qu'on a un deuxième film. On a un film. My Name is Orson Welles. C'est donc à la Cinémathèque française jusqu'au 11 janvier. Vous citiez le catalogue, l'ouvrage collectif qui paraît aux éditions de la Table Ronde et il vaut le coup. Commissariat général de l'expo, évidemment, le directeur Frédéric Bonneau.
12h, 13h30. Les midis de culture. Marie Laborie.
On enchaîne avec Chronology of Water, le premier long métrage de Kristen Stewart, actrice révélée au grand public par les films de la saga Twilight, passée depuis à un cinéma nettement plus indépendant. Elle adapte ici le récit autobiographique de Lydia Yuknavitch, paru en France en 2014, sous le titre La mécanique des fluides. L'autrice y racontait par fragments son enfance détruite par l'inceste, sa carrière de nageuse de haut niveau avortée, sa dépendance à la drogue et à l'alcool, et puis sa renaissance par la littérature. Kristen Stewart se garde bien de ne s'en tenir qu'aux faits terribles qui jalonnent cette vie. Elle adopte, à l'image de la langue heurtée de Yunakovitch, un montage très particulier. Le film a été présenté à Cannes cette année dans la section Un certain regard et il a reçu le prix de la révélation au dernier festival de Deauville. Quelques mots d'abord, Antoine Guillot.
Assez rapide, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Je trouvais que c'était une bouillie artie un peu indigeste. Et puis, à mon grand étonnement, j'ai fini par être ému parce que je voyais à l'écran. Alors pourquoi ? Ben, je vais essayer de le comprendre tout à l'heure.
Charlotte Garçon.
Oui, bien sûr qu'il y a un côté... on a l'impression ces temps-ci d'avoir beaucoup de gens qui remettent sur le tapis leur trauma et qui se servent du cinéma pour les faire remonter à la surface. En fait, moi, j'ai apprécié cette archéologie comme ça d'une sensibilité littéraire, puisqu'elle devient effectivement autrice. J'ai apprécié ce mélange étrange de frontalité, de crudité et d'une grande douceur.
On écoute la bande-annonce de Chronology of Waters de Kristen Stewart.
Sometimes I think it arrived on paper.
I want to write.
I want you all to be winners. Disappear into your imagination. Nobody's in the room but you and that pen.
I love you. And whatever you want to do, I'll support it.
That's it? For the pain let your imagination change what you know to be. How many miles does it take to swim to a self?
Chronology of Water de Kristen Stewart avec Imogen Poots dans le rôle de Lydia Yuknavitch. Antoine Guillot, on parlait de ce montage et de ce procédé qui se répète dans le film, de montage diffracté. Finalement, ça a fonctionné puisque chez vous, l'émotion n'est pas venue tout de suite.
Oui, voilà, ça finit par imprégnation. Alors, il faut dire déjà que le titre est à la fois c'est vérités et mensonges. Là encore, Chronology of Water. Alors, il y a beaucoup d'eau et c'est un film très amniotique par moment. Ça jouait beaucoup de ce motif. En revanche, la chronologie, elle, est complètement explosée. Alors, on n'est évidemment pas obligé de faire Citizen Kane quand on fait son premier film, mais il y a quand même cette ambition d'embrasser toute une vie de façon un peu composite, comme un poème en fait, où les images rimeraient les unes avec les autres, tout en évitant, comme dans Citizen Kane, le sujet central, en tout cas de le montrer. C'est-à-dire que tout tourne autour d'un traumatisme enfantin et adolescent, qui est celui de l'inceste, qu'on ne va jamais montrer, mais dont on va montrer les effets à tous âges de la vie, avec une sorte d'accumulation du malheur et de l'autodestruction causée par ça. Alors, le tout se fait avec des images en 16 mm, déjà, assez furtives, avec des zooms, avec plein d'effets fait en fait sans cesse. Et c'est vrai qu'au début j'ai vu ça, je me suis dit il y a toute la grammaire du film apparemment audacieux, apparemment trash, mais totalement chic et avec un peu tout ce qu'il faut donner sur la représentation de la femme aujourd'hui. Donc on va montrer toutes les humeurs possibles, le sang, les larmes, le liquide produit par l'orgasme, etc. En se disant ça va être super trash, ça va être comme le Catherine Breillat des années 70 et ça va choquer et remuer le public. Avec ce que Kristen Stewart présentait comme un fucking movie quand elle l'a montré à Cannes. Et moi, je voyais tout ça glisser comme une surface aquatique, un peu poseuse, quoi, d'une certaine façon. Et puis, tout d'un coup, enfin, pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure, mais je crois que c'est beaucoup dû à l'investissement assez sidérant de cette Imogen ouais. Poots, dont j'adore le nom terriblement british. Elle pourrait être dans des nouvelles de livres pour enfants ou chez Agatha Christie ou je ne sais où, mais qui y va complètement, qui s'abandonne à ce film totalement. Et tout d'un coup, derrière tout ce qu'il peut y avoir d'artifice, en fait, et je dirais même de volontarisme de la part de Kristen Stewart, qui s'applique beaucoup. C'est un film qui se donne les apparences d'être brut de décoffrage, mais qu'en fait, qui est très composé, très, très pensé. Mais forcément, je crois qu'elle a mis 8 ans à penser son film, à le refaire sans cesse dans sa tête. Ça se sent un peu. Mais quelque chose déborde de la part d'Imogen Poots. Et je pense que c'est cette humanité, tout d'un coup, qui ressort, qui finit par nous emporter.
Charlotte Garçon.
Oui, parce qu'on comprend que c'est l'histoire. On comprend que l'histoire du film, c'est aussi l'histoire d'une actrice qui, en lisant une autrice, arrive à se penser cinéaste. Donc évidemment que derrière cette idée de comment cette jeune femme qui a vécu des choses très dures devient écrivaine et ne lâche pas et ne s'auto-détruit pas, parce que comme liquide, il y a aussi de l'alcool. Hein, oui. ça carbure quand même. On le sent, ça, qu'il y a un enjeu pour la cinéaste-actrice de véritablement faire son film en tant que autrice de film. Donc, c'est un peu les mêmes problématiques qu'on avait dans l'exposition Orson Welles, dont on n'a pas dit qu'elle remet quand même, une fois de plus sur la table, cette idée du grand auteur, fut-il maudit. Hein. Mm-hmm. Donc, elle diffracte un auteur, mais elle la remet aussi sur le tapis, comme si tout le monde était d'accord aujourd'hui. Alors, là, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, ce film est amphibie. C'est-à-dire qu'il prend ce parti stylistique amniotique, on pourrait dire, de cette archéologie de l'intime avec la chronologie qui, du coup, n'est pas linéaire. Et il persiste, il persévère dans son être sans s'excuser, je dirais. C'est le geste qu'on associe à Kristen Stewart, actrice, c'est-à-dire cette idée de « je vais vous ». Il y a une frontalité qui passe dans le film et qui passe dans son acharnement à être construit comme ça. Il me semble que c'est le professeur d'écriture, car vous savez qu'aux États-Unis, ça s'enseigne beaucoup. Enfin, ça vient de là. Qui dit à un moment « fuck metaphors ». Je crois que c'est lui qui dit ça. Donc, au diable les métaphores, pour rester poli. Et au fond, je crois que le film, même s'il ne montre pas le trauma, l'inceste, vraiment de manière précise, quand même fait ce choix de frontalité. C'est-à-dire que la frontalité, elle s'obtient par petites touches, mais elle s'obtient tout de même. Et je trouve que cette alliance de cette voix très douce, un peu à la Orson Welles, mais, mais très douce, permanente, permet justement un contrepoint, une tension entre la dureté de ce qui est raconté et la lumière vers laquelle va quand même le film.
Merci. Chronology of Waters de Kristen Stewart en salle. Aujourd'hui, on rappelle le nom Imogen Poots dans le rôle principal, Antoine Guillaume Charles Garçon. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture.